Une enquête ouverte après un homicide à Ouégoua. Un homme excédé par le bruit d'un rodéo nocturne a tiré sur un père et son fils. Bilan, un mort et un blessé. L'auteur du coup de feu s'est rendu à la gendarmerie. Le PALICA a réuni une assemblée générale extraordinaire à Koné, à l'ordre du jour notamment un retour sur le congrès contesté du FLNKS. Charles Wachetine parle d'un passage en force. L'actualité politique nationale et le RN en campagne permanente. Jordan Bardella s'est dit attentif à la composition du futur gouvernement de Michel Barnier. Le Rassemblement national prépare les municipales, mais aussi d'éventuelles législatives anticipées avant la fin du quinquennat. Toujours en métropole, un nouveau drame dans la Manche. 8 migrants sont morts ce week-end dans le naufrage de leur embarcation de fortune. 2024 est d'ores et déjà l'année la plus meurtrière avec 45 décès dans ces conditions. Le sport et la fin de l'hégémonie des Red Bull en Formule 1. McLaren prend les commandes du classement des constructeurs. Une première depuis 10 ans, Oscar Piastri a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan. La météo en Nouvelle-Calédonie, du nord aux Loyautés, le ciel est légèrement voilé, ailleurs le soleil domine. Le vent de secteur sud souffle jusqu'à 30 nœuds sur la pointe nord. Les températures maximales sont proches ou en dessous des valeurs de saison, avec 23 à 27 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et elle a une actualité sur le territoire.
Oui, avec une enquête ouverte après un homicide par arme à feu à Ouégoua. Les faits ont eu lieu samedi soir à la tribu de Thiari. Hier soir, le procureur de la République, Yves Dupas, a communiqué les éléments qui ressortent des premières investigations. Michael Juneski.
Oui, selon les premiers éléments de l'enquête, un homme âgé de 34 ans, habitant la tribu de Thiari, aurait ouvert le feu à 3 reprises avec son fusil samedi soir vers 21h en direction de 2 personnes de sa famille. La première victime, âgée de 26 ans, également domiciliée à Thiari, a été atteinte de 2 coups au niveau de l'abdomen. Elle est décédée au cours de son transport au centre hospitalier du Nord. Selon les premiers témoignages recueillis, l'altercation serait survenu après que la victime ait effectué des dérapages avec son véhicule devant la propriété de ses cousins, tout en proférant des insultes. L'auteur présumé se trouvait en état d'ivresse manifeste, toujours selon différents témoins. Le drame a pris place dans un climat de forte animosité au sein de cette famille, en conflit depuis plusieurs années. La seconde victime est âgée de 58 ans. Il s'agit du père de la première victime. Cet homme est allé chercher son fusil après avoir vu son fils allongé sur le sol. Il a été touché au niveau de l'épaule alors qu'il tirait un coup de feu en direction de l'auteur présumé. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur présumé s'est présenté spontanément hier matin à la brigade de Ouégoua. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits.
L'enquête est diligentée par la brigade de recherche de Koné, saisie des chefs d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire. Les opérations de police technique et scientifique ont été menées dès hier matin. Une autopsie du corps de la première victime a été ordonnée, ainsi qu'un examen médical de la seconde victime hospitalisée au CHN. Le week-end a aussi été marqué par plusieurs incendies. Samedi matin déjà, 250 mètres carrés de docks qui avaient déjà été pillés et partiellement incendiés ont brûlé à Doniambo. Et dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont les locaux de l'Union Rugby Club de Dimbéa qui en ont été victimes. Les bureaux, les locaux et les docks ont une nouvelle fois été touchés. Le site avait en effet déjà brûlé une première fois au début des émeutes. Des travaux avaient été effectués depuis par la municipalité et les bénévoles avaient mis la main à la poche pour du rachat de matériel, déplore Frédéric Hervouette. Le président de l'URCD dénonce des attaques répétées contre le vivre ensemble incarné par les valeurs sportives.
Il y a eu des réparations qui ont été faites par la mairie pour pouvoir recevoir du public, aussi bien le foot que le rugby, puisque le club de foot avait relancé des tournois. Donc on partageait les locaux et donc on mettait à disposition du foot le terrain de rugby et on s'entend très bien avec le foot et vice versa quand on a des événements de rugby pour les jeunes, notamment les écoles de rugby. En fait, on partage nos terrains. Et ce matin, patatras, certains se sont amusés à détruire encore le vivre ensemble, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. On essaie de remonter bénévolement sur nos fonds propres, parce qu'on avait déjà été brûlé une fois. On essaie de racheter le matériel nous-mêmes en attendant les aides, les subventions. Et puis là, de nouveau, ça rebrûle, quoi. Pourquoi s'attaquer à des installations sportives, qui vient le foot que le rugby, quoi. On fera le bilan de tout ce qu'on a perdu, quoi. Voilà, c'est surtout le bénévolat quoi qui est attaqué. On est un peu le pont qui reste entre toutes ces communautés. Et là, ça veut vraiment détruire le pont.
Et Frédéric Hervouette, le président de l'URCD, qui réagissait hier. Le club de foot de Dimbéa a donc aussi été touché par ces incendies criminels hier matin. Et puis une dizaine de pompiers du SIVM Nord et de la Sécurité civile ont été mobilisés toute la journée d'hier sur un feu de brousse à Arama, sur la commune de Poum. L'incendie est en évolution libre depuis près de 3 semaines maintenant. Il a déjà brûlé entre 800 et 900 hectares de végétation. Les soldats du feu sont intervenus pour protéger des habitations menacées par les flammes. L'actualité politique, et je le disais en titre, le Palika réunissait ce week-end une assemblée générale extraordinaire et les travaux se sont déroulés à la tribu de Noélie à Koné, Michael.
Oui, dans son discours d'ouverture, l'un des porte-parole du Palika, Charles Wachetin, a rappelé qu'il s'agissait de la troisième assemblée générale extraordinaire en seulement 3 mois. Cela n'est jamais arrivé auparavant et c'est surtout le signe, a-t-il affirmé, que la situation politique était complexe. 2 points se trouvaient à l'ordre du jour, le changement de présidence au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais surtout l'avenir du FLNKS. Les décisions prises lors du congrès de Koumak il y a 15 jours, auxquelles ni le Palika ni l'UPM n'ont participé, continuent de faire vivement réagir le Parti de Libération Kanak et créer des tensions, a expliqué Charles Wachetin.
Ce qui s'est passé à Koumak est une véritable hérésie. Nous ne pouvons de ce point de vue cautionner ce qu'il en est ressorti de ces travaux, qui n'engagent, et nous l'avons indiqué avant le congrès, en aucune manière le parti. Nous devons par contre nous interroger sur les véritables raisons d'un tel coup de force, si ce n'est de légitimer les exactions en cours. Ce qui est certain est que la nomination des responsables de la CCAT à la présidence du FLNKS constitue un camouflet pour l'Union calédonienne qui n'arrive pas à endiguer les phénomènes de violence orchestrés par la CCAT qu'elle a elle-même créé. C'est surtout une rupture avec l'esprit qui a présidé à la signature des accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa.
Non seulement la nomination de Christian Théin à la tête du FLNKS a changé la gouvernance du FLNKS, mais l'intégration des petits partis nationalistes a aussi modifié son organisation. Et pour Charles Wachetin, il va falloir en tirer les conséquences jusqu'à une éventuelle sortie du FLNKS pour le Palika. Outre la question de son positionnement sur le FLNKS, le Palika devait aussi discuter de la manière dont il entend se mobiliser pour sortir de la crise économique et sociale générée par les émeutes. Un point sur les travaux sera fait en ce début de semaine.
Radio Rythme Bleu, il est 6h37.
La semaine qui débute sera marquée par le début d'un long week-end pour beaucoup et de nouvelles mesures prises par le Haut Commissariat, Michael.
Une semaine qui voit la mise en place d'une nouvelle mesure d'interdiction de vente et de transport d'alcool à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 septembre inclus. Même restriction pour la vente et le transport d'armes. Par ailleurs, le couvre-feu sera rallongé à partir de samedi et pour 4 jours, il entrera en vigueur de 18h à 6h du matin.
Et dans l'actualité institutionnelle, plusieurs rendez-vous sont à noter cette semaine.
Le Congrès de la Nouvelle Calédonie procédera aujourd'hui à l'installation de la commission des forces vives, dont le principe a été adopté par le plan quinquennal réclamé à l'État et voté par les élus le 28 août dernier. Le congrès qui se réunira demain, mardi, en séance publique pour examiner un projet de délibération relative au taux de la TGC, mais aussi des mesures sociales exceptionnelles à la suite des émeutes.
Et d'ailleurs, concernant les répercussions économiques et sociales de cette insurrection, c'est la présidente du MEDEF-NC, Mim Sidélé, qui sera notre invitée tout à l'heure à 7h30. L'occasion de faire un point sur son séjour en métropole, au cours duquel elle a notamment participé à l'université d'été du MEDEF national, rebaptisée Rencontre des entrepreneurs de France.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous le durcissement des mesures de couvre-feu et de vente et de transport d'alcool décidées par le haut-commissaire pour le long week-end du 24 septembre ? Si vous approuvez ce durcissement, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 6h, passé de 40 minutes, direction la métropole après la publicité et le Rassemblement National qui dévoile sa stratégie, le parti de Jordan Bardella qui va rester en campagne permanente.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Vous recherchez une mutuelle complémentaire pour vos salariés? La Mutuelle du Nickel est à présent ouverte à tous les secteurs d'activité. Avec votre cotisation, disposez aussi du tiers payant dans nos centres dentaires, d'ophtalmologie, d'audition et d'optique. La Mutuelle du Nickel, renseignements au 26 60 40.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'actualité en métropole marquée par l'émotion et le silence à Grenoble. Une nouvelle marche blanche était organisée en mémoire de Lilian Dejean. Cet agent municipal a été tué par balle il y a tout juste une semaine. Un chauffard qui venait de provoquer un accident a ouvert le feu sur lui alors qu'il venait apporter son aide. Près d'un millier de personnes étaient réunies pour un adieu au père de famille de deux enfants. Ils se sont retrouvés sur son lieu de travail, dans le quartier de son enfance ou encore au club de foot de sa ville. Le reportage de Noémie Loisel pour Europe 1.
Rose rouge et blanche à la main et le portrait de Lilian Dejean sur des pancartes. Des centaines de proches, amis et collègues ramassent des déchets en hommage à cet agent de la propreté urbaine que tous apprécient pour sa générosité, se souvient Romain Lorenz, son agent de maîtrise et ami encore très ému.
C'était mon garde du corps. Je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure. Lilian, il était là pour moi. Il a fait beaucoup. On était tout le temps ensemble. Plein de souvenirs avec lui sur le boulot, sur le terrain. Un grand homme avec un grand cœur.
Dans le cortège, beaucoup de tristesse, de l'incompréhension, une certaine colère face à une violence devenue trop banale. Continue Sylvie, une amie habitante de Grenoble.
Rien ne justifie un tel geste. On ne lui a pas laissé de chance. Les marches blanches se succèdent. Elles ne se ressemblent toutes. On voit des gens pleurer, des gens parler. Et le temps continue, et ça continue. Et non, ça ne doit pas continuer, il faut arrêter.
Une semaine après les faits, le suspect est toujours recherché. Mais ses proches ont confiance dans le travail des policiers et espèrent que justice sera rendue.
Et puis après une course-poursuite à Valence, non loin de là, un automobiliste de 31 ans est mort après avoir été roué de coups par un autre conducteur qui le poursuivait et a fini par le stopper avant de le passer à tabac. L'auteur des coups a pris la fuite et a réussi à échapper à la police. Son véhicule a été retrouvé incendié. Toujours dans l'actualité en métropole, des traversées meurtrières dans la Manche. 8 personnes sont mortes lors du naufrage d'une embarcation clandestine de fortune. À bord de ce Zodiac, une soixantaine de migrants pour seulement une dizaine de gilets de sauvetage. Jacques Billon est le préfet du Pas-de-Calais.
Malgré les tentatives de réanimation, ce sont donc 8 personnes qui ont été déclarées décédées. Il s'agit d'hommes apparemment majeurs. Les 51 autres naufragés ont par ailleurs été pris en charge, dont un nourrisson de 10 mois en hypothermie. Les naufragés seraient originaires d'Érythrée, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, d'Égypte et d'Iran.
Une enquête a été ouverte en 2024. 45 personnes sont mortes en tentant de se rendre illégalement en Angleterre. Il s'agit de l'année la plus meurtrière.
Info matin, 6h42.
L'actualité politique maintenant avec la rentrée du Rassemblement national. Le parti a présenté ses objectifs dans une optique de campagne électorale permanente. Les précisions de Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Pour son premier vrai bilan des élections législatives de juillet, le président du RN salue des résultats historiques. Le Rassemblement national est désormais une force politique indispensable, déclare-t-il, avant de rappeler que le parti surveille de près la composition du nouveau gouvernement de Michel Barnier.
Si le gouvernement qui sera constitué dans quelques jours est le prête-nom du macronisme et le gouvernement tombera, et si évidemment il entend les aspirations qui ont été celles de millions de Français sur le désordre sécuritaire migratoire, sur l'urgence du pouvoir d'achat, nous accompagnerons les mesures qui vont dans le bon sens. Cette attitude a toujours été la nôtre et elle continuera évidemment d'être la nôtre dans les prochains mois.
Face à l'ensemble des cadres du RN, Jordan Bardella fixe 2 objectifs, les élections municipales à venir et d'éventuelles élections législatives dans moins d'un an. En clair, le parti souhaite désormais instaurer une forme de campagne électorale permanente avec des événements de campagne, à commencer par un grand meeting à Nice début octobre.
Une rentrée devant les 126 députés du Rassemblement national réunis à l'Assemblée nationale pour les journées parlementaires du parti. Et puis à la fête de l'humanité, on a déroulé le tapis rouge à Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a participé à un grand entretien animé par 2 membres de la rédaction du journal L'Humanité sur la crise politique française. L'ex-diplomate a reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir donné sa chance au nouveau Front populaire. Dominique de Villepin, qui s'est aussi exprimé sur l'actualité internationale et concernant la guerre entre Israël et le Hamas devant un public acquis à sa cause, il a tapé fort sur l'État hébreu.
Nous sommes dans une stratégie qui donne carte blanche à Israël pour liquider le Hamas, on peut comprendre compte tenu du 7 octobre, mais liquider le Hamas, c'est pas liquider ni les Palestiniens, ni la question palestinienne. Or, on voit bien derrière que l'objectif, c'est de faire en sorte que cette question palestinienne retourne dans les oubliettes de l'histoire. Moi, ma conviction, mon pari, c'est qu'au contraire, jamais la question palestinienne n'a été aussi prégnante, incontournable, nécessaire à la création d'un nouvel ordre mondial.
L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin à la fête de l'humanité qui s'est donc déroulée ce week-end en métropole. Et au sujet d'Israël, plus de 10 mois après les attaques terroristes meurtrières du 7 octobre, l'armée israélienne reconnaît être probablement responsable de la mort de 3 de ses otages à Gaza. Ils auraient été tués en novembre dernier lors d'un raid mené par Tsahal qui visait le chef de la brigade nord du Hamas. C'est la première fois que Tel Aviv reconnaît ce type de fait dans ce conflit. Un aveu qui n'étonne toutefois pas Frédéric Ancel, géopolitologue.
L'État d'Israël, y compris à la guerre, se comporte de manière démocratique, c'est-à-dire que l'armée ne fait pas l'impasse manifeste sur des faits qui, de toute façon, un jour ou l'autre, seront établis. Donc, par souci de cohésion nationale et de confiance dans les institutions, en général, les gouvernements, l'état-major et l'armée disent plus ou moins la vérité.
Israël précise n'avoir eu aucunement connaissance de la présence de ses otages lors de cette frappe du 10 novembre. Et hier soir, c'est Israël qui a été ciblé par un tir de missile des rebelles du Yémen. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a réagi. Les Houthis paieront un lourd tribut. Déclaration donc après cette frappe qui n'a fait aucun blessé dans une région dégagée du centre du pays. Le Hamas, de son côté, a salué le tir de missile Houthi sur le centre d'Israël, affirmant que l'État hébreu ne sera pas en sécurité tant qu'il ne cessera pas son agression dans la bande de Gaza. Fin de citation. Il est 6h passé de 47 minutes après la pause. Retour sur la reprise des transports en commun à Nouméa. Carouya a décidé de reprendre le service. Le SMTU n'approuve pas.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Pour ton orientation ou ta reconversion, découvre toutes les opportunités qu'offre la formation en alternance de la CCINC. L'alternance, c'est une formation, une expérience, un métier. 12 formations dans 5 secteurs différents, du niveau bac à bac plus 3. Des formations adaptées aux entreprises pour former les collaborateurs de demain. Inscris-toi dès maintenant sur www.pointa.nc jusqu'au 4 octobre. Plus d'infos sur www.cfa.cci.nc. La CCI Formation Alternance, accélératrice de compétences et d'insertion professionnelle.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après, ça fait... Ensuite, ça fait... Et là...
Tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie du côté des transports. Vous avez peut-être remarqué des bus Taneo dans les rues de Nouméa depuis ce week-end. Le GIE Carouya a remis en circulation une partie de son réseau. Mais c'est une reprise sous forme d'imbroglio puisqu'elle a été condamnée par le SMTU, Michael Juneski.
Et le service se poursuit aujourd'hui. Toutefois, le syndicat mixte des transports urbains a fait part de sa réaction. Pour le SMTU, cette reprise s'est faite sans concertation. Et alors que les conditions ne sont pas réunies, le syndicat mixte des transports urbains, qui est le responsable de la gestion du service public des transports dans l'agglomération, se donne le droit d'analyser dans quelle mesure cette reprise du service des bus Carouya rentre bien dans le cadre du contrat passé avec le GIE, étant donné la situation exceptionnelle que connaît la Calédonie et l'agglomération depuis le 13 mai. Naya Wateu est la présidente du SMTU.
Je vous avoue que je suis particulièrement en colère contre cette décision et au regard des informations qui sont transmises par ce communiqué de presse où on vient laisser entendre que la volonté première, c'est de répondre à une mission de service public. Je rappelle que cette mission de service public, elle est aujourd'hui la responsabilité du SMTU. Et qu'aujourd'hui, de manière unilatérale, Carouya prend l'initiative de remettre des bus, de décider à la place de l'autorité délégante quelles sont les modalités de reprise. Rien n'a été organisé. Tout le monde est mis au pied du mur. Et on vient expliquer que tout ça est fait dans le cadre d'une bonne mission auprès des usagers. C'est faux. Nous ne sommes pas dans une reprise à la normale. Cela aurait dû être discuté, cela aurait dû être travaillé, concerté.
Et selon le GIE, la remise en circulation des bus s'est passée sans contrainte. Les lignes sont encore assurées ce lundi. Écoutez Joseph Saliga, le président du GIE Carouya Bus.
Je pense qu'aujourd'hui, on a bien vu une présidente quand même pas contente par rapport à ce qui s'est passé. En attendant, c'était prévisible. La suspension se terminait vendredi. Surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, le réseau rail fonctionne. Il y aura des discussions pour le après. En attendant, donc, nous, on ne fait que exécuter ce qui est prévu dans le contrat. On va commencer à entamer les discussions. Oui, effectivement.
Les discussions doivent se poursuivre pour déterminer dans quelle mesure une véritable reprise de l'activité du SMTU et des transports en commun pour toute l'agglomération nouméenne doit être opérée lorsque les conditions le permettront, et tandis que les dégâts sur le réseau d'autocars et néobus ont été estimés à plus d'un milliard de francs.
Cette information pratique maintenant à propos des navettes maritimes desservant le Mont d'Or Sud. En raison de conditions météo défavorables à la navigation aujourd'hui et demain, les navires feront des rotations ce matin jusqu'à 11h seulement. Le dispositif est donc annulé pour cet après-midi et toute la journée de demain. Il reprendra mercredi si toutes les conditions météo sont réunies. Attention pour le week-end prolongé du 20 au 24 septembre puisque le dispositif des navettes sera limité en raison du couvre-feu à partir de 18h et les trajets en fin de journée seront donc réservés uniquement aux travailleurs munis d'une attestation. Toujours du côté des transports, on notera également que c'est aujourd'hui que débute la commercialisation par Air Calin des premiers billets Nouméa Bangkok-Paris. Le premier vol est prévu le 11 décembre prochain. En bref, la campagne Sell Dignity menée par la SLN depuis 2 mois s'est achevée samedi matin sur le site de Donyambo. L'objectif était de promouvoir le bien-être, mais aussi l'égalité des genres. Il s'agit d'un événement renouvelé depuis plusieurs années et animé par les équipes de la SLN, mais aussi par des intervenants extérieurs. Le programme de cette matinée de clôture était plus spécifiquement orienté sur les violences intrafamiliales. Et puis un large succès pour le grand marché broussard de Ducos. Samedi, le rendez-vous a même attiré des milliers de visiteurs, Charlotte Coulson.
Et oui, contrairement à l'accoutumée, le marché a accueilli les acheteurs toute la journée, jusqu'à 16h, sur une surface 2 fois plus grande, avec 100 stands sur place. Les producteurs sont donc venus en nombre proposer aux Calédoniens des produits frais à des prix très attractifs. Le marché a été inauguré notamment en présence du haut-commissaire Louis Lefranc. Et un autre moment phare de ce week-end, la brocante de la Spank, qui a attiré hier matin de nombreux amoureux des animaux, venus dénicher de bonnes affaires. Ce rendez-vous est désormais donné tous les mois pour aider le refuge à offrir un service de qualité aux animaux en attente d'une adoption.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h52. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal. Avant de voir toute l'actualité sportive, on parlera de Formule 1, notamment avec les McLaren qui prennent les commandes du classement des constructeurs ou encore de la Ligue 1, avec une belle affiche en clôture de cette 4e journée du championnat de France de football, Lens contre Lyon.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à la une ce matin du football, Lens et Lyon qui s'affrontent en clôture de la 4e journée de Ligue 1, Mickaël Juneski.
Et le score est toujours de 0-0 après 48 minutes de jeu. La deuxième mi-temps vient juste de débuter. L'Olympique Lyonnais est actuellement à la 14e place et donc en quête de points. L'OL est donc sur le terrain de Lens qui est pour sa part dans le top 5 de la Ligue 1. Encore une mi-temps à jouer donc pour tenter de départager les deux équipes. De son côté, Nantes s'est incliné à domicile face à Reims, 2-1, alors que les Canaries avaient ouvert le score. Les Nantais restent provisoirement à la 4e place du championnat. C'est une grande déception pour l'entraîneur nantais Antoine Comboiré.
Une énorme déception. C'est une défaite qui fait très mal parce que, pour effet actuel, on prend un but à la 90e minute qui nous donne une défaite, quoi, parce que tu dois être capable. En tout cas, le match qu'on a joué aujourd'hui, où tu fais quand même un bon match, voilà, le plus mauvais résultat, c'est faire match nul. Sortir de ce match avec un nul, tu es déçu, mais voilà, donc tu restes sur une dynamique positive et puis tu es récompensé donc, du match que tu fais. Et là, avec ce but, tu perds tous les bénéfices donc, du travail accompli dans ce match, quoi. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et c'est ce qu'on doit retenir donc, comme leçon de ce match ce soir.
Les autres résultats du jour. Rennes a battu Montpellier 3-0. Toulouse l'a emporté sur Le Havre 2-0. Enfin, Strasbourg et Angers ont fait match nul, un but partout. Ce week-end, Saint-Etienne avait décroché son premier succès de la saison sur Lille 1-0. Marseille avait battu Nice 2-0. Monaco l'avait emporté à Auxerre 3-0. Et le PSG, leader du championnat de France, s'était imposé sur Brest 3-1.
Sur les terrains de rugby maintenant, une belle affiche entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais pour conclure la deuxième journée du top 14.
Le duel de stadistes, Toulouse, champion de France en titre, qui compte dans ses rangs aujourd'hui le Calédonien Rodrigue Netti, les Toulousains 6e du classement contre des Rochelais 10e. En ce début de saison, les points valent déjà cher, étant donné le niveau relevé du top 14. Après 33 minutes de jeu, le score est de 17-7 en faveur de Toulouse. Encore une cinquantaine de minutes à jouer dans cette rencontre.
Du cyclisme avec le Belge Tim Merlier sur le toit de l'Europe.
Il a remporté le championnat d'Europe l'Europe sur route. Au terme des 222 km de l'épreuve, il s'est imposé au sprint devant le Néerlandais Olaf Koich et l'Estonien Madis Mikkels. Le meilleur Français, Christophe Laporte, tenant du titre, était dans le groupe de tête. Il a terminé à la 9e place, tout comme Arnaud Démare qui finit 11e.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 et le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui aura vu la victoire de l'Australien Oscar Piastri.
C'est sa deuxième victoire en carrière après le Grand Prix de Hongrie en juillet dernier. Le pilote McLaren a réussi une belle opération en dépassant la Ferrari de Charles Leclerc dans le 20e tour pour ensuite conserver la tête de la course jusqu'à son terme, donc devant le pilote de la Scuderia pourtant parti en pole position. George Russell sur Mercedes complète le podium après l'accrochage à un tour de l'arrivée de la Red Bull de Sergio Perez et de la Ferrari de Carlos Sainz. Lando Norris sur la deuxième McLaren est parvenu à remonter jusqu'à la quatrième place devant Max Verstappen, encore une fois en difficulté, cinquième. Côté français, Pierre Gasly a terminé à la 12e place. Il y a encore du travail selon le pilote alpine.
Je pense que c'était une de mes meilleures courses de l'année. J'étais à la limite du début à la fin. Je pense qu'il y avait franchement rien de plus à aller chercher. Donc je suis satisfait. Après, c'est sûr qu'on finit très très loin. On savait qu'en partant hard, on allait rester dehors le plus longtemps possible en espérant un safety car. Malheureusement, il est arrivé un peu tard, mais c'est vrai que c'était vraiment compliqué pour nous ce week-end.
Esteban Ocon, l'autre tricolore, a terminé 15e. On retiendra également de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan donc la prise de pouvoir des McLaren au classement des constructeurs devant l'écurie Red Bull. Au classement pilote, Verstappen est toujours leader devant Lando Norris et Charles Leclerc. Le week-end prochain, le paddock a déjà rendez-vous à Singapour pour le 18e Grand Prix de la saison.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
On termine avec le sport côté calédonien, du football, puisque nos représentantes se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi océanien féminin des moins de 16 ans.
Au Fidji, nos footballeuses ont décroché leur place dans le dernier carré grâce à leur succès sur Tahiti 3-1 lors du dernier match de groupe hier. C'est Kina Maen qui a été élue joueuse du match avec encore 2 buts inscrits dans cette rencontre.
Je me sens bien, je suis contente. On peut jouer au sol plus rapide et être efficace devant. Rendez-vous en demi-finale.
Kina Maen au micro de l'OFC. Dans le même temps, la sélection des îles Salomon, qui était l'adversaire direct des Calédoniennes pour une qualification, s'est inclinée face aux Néo-Zélandaises 1-0. Les Calédoniennes feront face aux Samoa en demi-finale. L'autre demi-finale se jouera entre les Tongiennes et les Néo-Zélandaises. En cas de victoire, mercredi prochain contre les Samoa, les Calédoniennes iront à leur tour, comme les sélections masculines des moins de 17 ans et moins de 20 ans, au mondial de leur catégorie d'âge, prévu en 2025 au Maroc.
Et puis on reviendra évidemment sur les principaux résultats du week-end ce midi dans le Mac des Sports. Nous évoquerons aussi l'actualité du comité régional de boxe de Nouvelle-Calédonie. Nous recevrons en effet Christophe Savoie, agent de développement et conseiller technique pour la discipline sur le territoire. Ce sera à suivre juste après Infomag, le journal de 11h30.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et avant de refermer ce journal, un mot de météo.
Oui, sur le sud et le sud des loyautés, ce matin, les nuages présents au lever du jour se dissiperont et le soleil dominera ensuite. Ailleurs, les nuages resteront majoritaires. Sur la moitié nord de la Grande Terre, Bélep et Ouvéa, quelques averses seront attendues. Le vent, lui, pour ce matin, orienté au sud, il se renforce entre 15 et 20 nœuds sur le nord-ouest et la pointe nord. Ailleurs, il sera compris entre 10 voire 15 nœuds aux loyautés. Sur l'est, l'est sera déventé, donc, et à l'abri de la chaîne, mais avec localement des accélérations en sortie des vallées. Cet après-midi, du nord aux loyautés, le ciel elle sera légèrement voilée. Ailleurs, il dominera largement. Le vent au secteur sud, toujours entre 15 et 20 nœuds et localement proche des 20 nœuds et cette fois avec des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds sur la pointe nord et Bélep. Sur la côte elle, il sera plus faible entre 5 et 10 nœuds mais avec localement toujours des accélérations en sortie de vallée. Les températures maximales, elles se rapprochent et en dessous des valeurs de saison, elles seront comprises entre 23 et 27 degrés.